Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, hola, vous êtes bien sur Radio Canu.
Bonsoir. Il est 19h, passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Vous écoutez effectivement Radio Canu. Nous allons commencer ce Canu Info avec quelques petites réjouissances judiciaires pour commencer, puisqu'au milieu des condamnations expéditives d'une justice quotidienne qu'on connaît bien, justice quotidienne qui en général sanctionne très très rapidement les pauvres accusés qui se retrouvent devant ces justices au jour le jour, ces comparutions immédiates, en dehors donc de cette justice sociale qui condamne d'ailleurs plus souvent la misère sociale, qui entraîne des comportements qui sont hors la loi, plutôt que des vraies actions illégales. Face à cette justice donc du quotidien, expéditive, asociale, nous avons de temps en temps une justice qui semble fonctionner un petit peu. Ainsi, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné aujourd'hui le militant d'extrême droite bien connu Alain Soral pour insulte raciale, provocation et incitation à la haine raciale. Ça nous fait bien évidemment ultra plaisir. Donc c'est au sujet de propos qu'il avait tenus contre une procureure sur son site plein de haine, donc égalité et réconciliation. On pouvait y lire ceci, je cite, il est toujours très fin et ce monsieur Alain Soral. Les juifs sont des manipulateurs, dominateurs et haineux.
Où tout ça?
Ouais, et puis tous les juifs quoi. Enfin voilà, être juif c'est être manipulateur, dominateur et haineux. C'est pas mal. Et il était allé plus loin contre la magistrate. Il avait dit: je n'ai jamais entendu autant de mensonges et de malhonnêteté sortir de la bouche d'une femme, et pourtant des salopes j'en ai connu. Donc bien évidemment il aurait pu aussi être condamné pour son sexisme. Malheureusement ce n'était pas l'objet du procès, dommage, parce qu'on lui mettrait bien une deuxième droite judiciaire, c'est de ça dont il est question, à ce petit facho de Soral. Dans la série, je me réjouis aussi du malheur des autres. Tant pis, c'est pas très chrétien, mais nous ne sommes pas chrétiens, ça tombe bien. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue aujourd'hui dans l'enquête de ces petites fraudes ou de ces petits, je sais pas, ces trafics sur la réalité avec les passeports diplomatiques. Bien sûr, Carlos Ghosn, donc l'ex-boss de Nissan et le toujours mais plus très longtemps boss de Renault, ne sortira pas de prison tout de suite. En effet, sa demande de libération il y a une dizaine de jours a été rejetée. On rappelle quand même que son salaire annuel, alors c'était il y a deux ans, j'ai pas trouvé des chiffres plus récents, mais c'était quand même 16 millions d'euros par an, soit 1,3 million d'euros par mois, soit 43 000 euros par jour, soit à raison de 8 heures de travail par jour, 5 376 euros de l'heure. Voilà, il aurait mérité de finir sa vie en prison, ne serait-ce que pour ce vol de la richesse produite par son entreprise, mais ça, c'est pas condamné par la justice. En tout cas, on a appris une deuxième bonne nouvelle au sujet de cet énergumène, de ce patron, puisque enfin, normalement, l'État français, qui est actionnaire de Renault, a lâché ce patron un peu trop bien payé, dirons-nous, pour rester poli. Puisque deux mois après son arrestation, le gouvernement a demandé la nomination d'un successeur à Carlos Ghosn à la tête de Renault, puisqu'il est encore officiellement à la tête de Renault. Dans les bonnes nouvelles judiciaires aussi, notons que la Cour de cassation a validé la condamnation à 2 ans d'emprisonnement, donc un avec sursis et un an ferme contre l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant. On n'est pas toujours content que les gens soient condamnés à de la prison, mais là, je pense que moi, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas vous. Et on a aussi d'autres bonnes nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Dijon a décidé de relaxer 38 faucheurs volontaires qui comparaissaient pour avoir détruit, en novembre 2016, deux champs de colza génétiquement modifiés qui avaient été rendus tolérants à des herbicides par la méthode de modification de création d'un OGM par la mutagénèse. La plainte a été jugée, je cite, non recevable pour défaut de caractérisation de l'infraction. Bonne nouvelle pour les militants des faucheurs volontaires. Bien sûr, me direz-vous, la majorité des flics auteurs de violences policières ne sont pas condamnés. Bien sûr, le flic assassin de Rémi Fraisse n'a jamais été condamné. Bien sûr, Barbarin peut continuer à soutenir ses amis prêtres pédophiles, car la justice est restée de son côté. Bien sûr, Bien sûr, il y en a aussi plein des contre-exemples en dehors de la justice expéditive contre tous les militants et manifestants. Mais bon, tout n'est quand même pas si noir aujourd'hui, car Soral, Benalla, Carlos Ghosn, Guéant, tout ça, c'est déjà pas mal. Allez, on ouvre ce Canu Info, nous allons parler de ce qui se passe à Lyon sur les universités avec une bonne nouvelle. On parlera flashball, on va parler plan d'urgence face à la catastrophe qui se décide en Angleterre, on va parler sexisme, on va parler ni Dieu ni maître, on va parler Big Mac aujourd'hui, McDonald's en fait.
Bah, hein. C'est pour aller en fait avec ton Mac Jésus.
Ouais, j'ai vu. Voilà, on parlera peut-être un peu de vin, un peu de pesticides, un peu de plein de choses. Ça commence tout de suite avec l'Université Lyon 2.
Oui,
avec
c'est...
une petite explosion aujourd'hui à l'Université Lyon. Hein. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu les images.
À la doigt, ouais.
C'était assez impressionnant. J'étais pas très loin, mais je l'ai pas, j'ai vu juste la fumée
ouais,
moi, dans le ciel. Un accident, oui, tout simplement.
Alors, je vais essayer de redémarrer. Oui, donc c'est une bonne nouvelle en théorie. Maintenant, on va attendre la pratique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris de l'Université Lumière Lyon 2 que la direction ne souhaitait pas augmenter ces fameux frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes hors Union européenne. Hein, on en a déjà discuté ici. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Hein, on va dire, c'est bien quand même pour la direction de l'Université Lumière Lyon 2 de prendre cette décision. Alors, c'est dans la théorie, puisqu'il faut quand même préciser une petite chose. D'ailleurs, c'est Jim Walker, le vice-président en charge des relations internationales de l'Université Lumière Lyon 2, qui a donné une interview à Lyon Capital, que vous pouvez retrouver sur le site de ce média lyonnais, qui rappelle une petite chose, c'est que c'est quand même l'État qui décide des frais d'inscription. Et que c'est pas parce qu'il y a une petite rébellion qui pourrait se mettre en place en France que ça va changer la donne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grosse révolution, hein, une grosse rébellion dans les universités pour que ces frais, cette augmentation de frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires soit vraiment revue, que cette réforme soit revue. Alors, il faut rappeler qu'il y a Clermont-Ferrand qui a déjà pris une position, il y a l'université Aix-Marseille qui a pris une position. Donc il y a un petit mouvement quand même de petite rébellion, hein, je dis, face à l'augmentation de ces frais d'inscription qui commence un petit peu à sortir. Maintenant, il faudrait qu'il y ait vraiment, vraiment un gros mouvement pour que l'État, qui est donc décisionnaire, fasse un petit peu marche arrière sur cette question, fasse carrément marche arrière sur cette question. Alors, ce qui est intéressant dans cette interview j'ai lu, si je vous invite à aller lire cette interview, c'est parce que je l'ai lu, bien évidemment. Jim Walker nous explique qu'il y a un décret de 2013 qui permet d'exonérer de frais 10% des étudiants. Alors, il explique dans l'interview que, par exemple, ça peut exonérer les sportifs de haut niveau ou les personnes en situation de handicap. Et il dit que, ça c'est ce que le décret prévoit, et il dit que ça pourrait être peut-être une manière de permettre le refus de l'augmentation de ces frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Ça c'est une espèce de manœuvre, hein, si vous voulez, qui pourrait permettre de contourner la décision de l'État en se servant de ce décret de 2013 et d'exonérer donc des frais 10% des étudiants de l'université. Donc on sent qu'il y a quand même une réflexion qui est menée derrière et qu'il y a peut-être une solution. Dans cette interview aussi, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a 29 000 étudiants sur l'université Lyon 2 et il y a 3500 étudiants extra-communautaires. Donc ce qui veut dire que ça ne va pas être si simple pour tout le monde, mais c'est déjà un début peut-être de quelque chose, et en tout cas ça fait toujours plaisir quand même de voir qu'il peut peut-être se passer quelque chose et d'avoir quelques réactions. Alors tu vas nous parler du mec de droite, que, en tout cas c'est comme ça que tu l'appelles. Moi je ne l'appellerai pas mec, puisqu'on va parler de Monsieur Toubon. Mais...
Oui, donc voilà. Il est officiellement défenseur des droits. Monsieur Jacques Toubon, ancien membre du RPR, donc l'ancêtre de l'UMP, qui est lui-même l'ancêtre des Républicains de Monsieur Wauquiez. Donc quelqu'un qui était pas mal à droite, politiquement. Mais depuis qu'il est défenseur des droits, il est plutôt dans un rôle assez classe, Monsieur Toubon, comme quoi on peut évoluer même quand on... mais il faut attendre un âge avancé quand on est de droite pour évoluer. En tout cas, c'est ce qu'il lui a fallu. Et nous avons donc Monsieur Toubon qui a parlé des flashballs et qui a dit qu'il était pour, qu'il avait officiellement demandé la suspension de l'usage des flashballs, alors officiellement des lanceurs de balles de défense.
S'il te plaît, parlons...
C'est le nom officiel aujourd'hui.
Ah, ça y est, nous revoilà.
Ouais, donc
une
petite coupure. Ouais. Oh putain, j'ai trouvé. Donc
tu as été coupé dans
ton... Ouais, j'ai été coupé dans mon
sur Monsieur Toubon et ouais. les lanceurs des défenses.
Et ben voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a eu beaucoup de blessés, notamment. Alors ça fait très longtemps qu'il y a des blessés sur ces lanceurs de balles de défense. Mais là sur les mouvements des Gilets jaunes, il y a une répression policière très très forte. Et en plus, on a eu pas mal de blessés. Alors ça fait quand même réagir quelques personnes du côté des flics qui ont rappelé officiellement comment on utilisait ces lanceurs de balles de défense. Ça laisse entendre quoi, qu'ils n'ont pas formé les flics avant. Enfin, on comprend pas tout de ce qui se passe. En tout cas, ce que dit Monsieur Toubon, c'est suite à ce qu'il avait dit il y a un an, où il avait demandé un moratoire à l'époque, il y a un an. Là, il demande carrément que ça s'arrête. En tout cas, ce qu'on a appris d'après Éric Morvan, qui est le directeur général de la police nationale, il a dit que normalement, les policiers visaient exclusivement le torse, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Donc pas la tête. Bizarrement, il y a beaucoup de militants, de militantes, de manifestants et de manifestantes ont pris des flashballs dans la tête. Et pourtant, le flic nous rappelle que cette nouvelle génération, donc qui s'appelle lanceur de balles de défense, est beaucoup plus précis qu'avant. Ce qui laisse entendre que, en fait, quand vous recevez un flashball dans la tête aujourd'hui, c'est que le flic a visé votre tête, puisque c'est beaucoup plus précis. Bon, espérons quand même que Toubon sera entendu par Macron et ses sinistres ministres.
Alors, vous avez certainement entendu que le Parlement britannique, ça se passe pas bien, question Brexit, hein. C'est un peu le bazar. Et alors, du coup, en France, il y a un petit peu de la réaction. C'est aujourd'hui notre Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, qui a annoncé un plan pour face à un Brexit sans accord. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même réagir. Alors, il paraît que le gouvernement et les équipes travaillent à un plan depuis avril 2018. C'est-à-dire que finalement, depuis le printemps, tout ça risque de pas bien marcher, de pas bien se dérouler, et donc on prévoyait des plans. Alors là, il y a un communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui. Bon, sous le perron, Monsieur Édouard Philippe a fait sa petite communication, et donc on apprend qu'il y a un certain nombre d'ordonnances qui vont être sortir. 5 ordonnances qui vont être adoptées en Conseil des ministres. Je vous rappelle que c'est un moyen d'aller rapidement à l'essentiel, paraît-il, les ordonnances. Il y a quand même l'avis du Conseil d'État. Hein, enfin bon, ça va commencer la première ordonnance à partir du 23 janvier 2019, c'est-à-dire là, dans les jours qui viennent. Alors, il y a une première ordonnance qui régit, je cite, les droits des citoyens britanniques en France et prévoit notamment. Alors, il y a 4 petits tirets, je vais vous les en parler en partie. Alors, il y a une période de 12 mois pendant laquelle, sous réserve de réciprocité, ces ressortissants britanniques pourront continuer de résider en France sans titre de séjour. Ils auront donc un an pour entreprendre les démarches pour obtenir le droit soit une carte de résident s'ils résident en France depuis plus de 5 ans, soit l'un des titres prévus pour les résidents présents depuis moins de 5 ans dans les conditions allégées. Alors moi, ce que j'ai retenu de ce petit tiret, c'est sous réserve de réciprocité. C'est-à-dire que toi qui m'écoutes et qui es peut-être ressortissant britannique, comme c'est écrit dans ce communiqué de presse, tu te demandes un petit peu à quelle sauce tu vas être mangé. Donc d'après ce communiqué, tu vas avoir un an de tranquillité pour faire des petits papiers et a priori, tu vas facilement obtenir ton petit papier. Hein, pour pouvoir rester en France. Mais il y a quand même écrit sous réserve de réciprocité. Alors ça on sait pas bien hein, comment ça va se passer, ce fameux principe de réciprocité. Bon, en tout cas, voilà, il y a le maintien des fonctionnaires britanniques au sein de la fonction publique française. On va pas tout mettre tout le monde dehors tout de suite. On va pas se fâcher directement. Alors il y a une deuxième ordonnance qui va permettre la réalisation en urgence des infrastructures nécessaires au rétablissement des contrôles aux frontières en allégeant certaines formalités. Et ben oui, parce que qui dit Brexit dit petite frontière. Et oui, il faut remettre les choses en place. Il y a une ordonnance qui permet, c'est la troisième, qui va permettre aux entreprises établies au Royaume-Uni de continuer à réaliser en France des opérations de transport routier. Bah oui, puisqu'on n'oublie pas le capitalisme hein, quand même dans cette affaire, il va falloir quand même que les gens puissent circuler et les marchandises et le pognon quand même, hein, ouais. Ça c'est essentiel.
Surtout les marchandises et le pognon.
Ah bah ouais, parce que bon, toi ressortissant ou ressortissante britannique, on te dit que tu vas peut-être pouvoir avoir la paix pendant un an, mais quand même l'essentiel c'est quand même le pognon. Et puis je vais vous passer direct à la cinquième ordonnance qui va permettre la poursuite des transferts de matériel de défense entre la France et le Royaume-Uni. Ça, c'est quand même une cinquième ordonnance, ma foi, tout à fait intéressante. Alors, du coup, sur ces histoires de rétablissement de contrôle frontalier, nous avons deux points qui apparaissent dans ce communiqué de presse. Les gestionnaires d'infrastructures sont invités à lancer sans tarder les travaux nécessaires pour que les contrôles aux frontières soient opérationnels le 30 mars prochain. Nous expliquons quand même. Alors, il paraît qu'il y a 50 millions d'euros hein, là, qui mis sur la table pour faire avancer tout ça avant le 30 mars prochain. Il paraît que les ministres en charge doivent former et effectuer des effectifs supplémentaires pour des contrôles douaniers et vétérinaires. 580 emplois hein, là-dessus. Ah bah c'est bien, c'est contre le chômage hein, quand même. Alors je sais pas si on va déplacer les gens, créer vraiment de l'emploi, je ne sais pas. Et puis il va falloir reconcentrer sur les régions les plus concernées. Ça c'est aussi noté quand même sur les trois pages hein, de ce communiqué de presse. Et puis j'ai découvert dans ce communiqué de presse un site internet que je ne connaissais pas, mais peut-être que Laurent, tu le connais, ça s'appelle, c'est ouvert depuis le 1er décembre. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, je vous le dis, vous pouvez aller faire un petit tour et vous nous raconterez. Ça s'appelle le www.brexit.gouv.fr.
Ah non, je suis pas allé visiter ce truc-là. Non.
Et ben, ils ont pensé à tout, hein. Apparemment ça fait quand même plusieurs mois qu'ils pensent au pire au gouvernement. Ouais. Ils ont raison, hein, parce que ça se passe quand même pas très bien là. Hein,
ouais. Ce
divorce, hein, parce que ouais, bah, c'est comme ça.
Un divorce, ça se passe jamais bien.
Ça peut, mais alors, en tout cas ça se passe pas bien. Et alors ça se termine sur un point auquel j'avais pas imaginé que ça apparaîtrait tout en bas de ce truc. Enfin, le secteur de la pêche sera particulièrement exposé et nécessite une mobilisation européenne. Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a un peu des guéguerres hein, entre les pêcheurs par là-haut, hein, dans le nord, entre les Français et les Anglais, on va dire ça comme ça, qu'il n'y a déjà pas d'accord, alors qu'on était censé être dans le même bateau, hein, sans jeu de mots, pardon. Maintenant que chacun va être de son côté de la côte, ben, alors ça risque encore plus de se taper dessus, parce que je vous rappelle que ça s'est tapé dessus quand même entre pêcheurs. Hein. Ça s'est agressé. Donc là, on retrouve ce dernier point hein, sur ces pages du communiqué de presse donc du Premier ministre. Voilà, ça commence un petit peu à s'agiter en France et bon, l'essentiel c'est quand même de savoir si vous n'avez pas votre passeport français et que vous êtes britannique, est-ce que vous allez pouvoir rester ici, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez envie de rester ici, parce que finalement les marchandises, s'en fout un peu.
Voilà, oui, on peut dire ça comme ça en fait.
Oui, c'est un peu facile et caricatural, mais ce qui compte de notre côté, c'est quand même de savoir si les gens peuvent avoir une libre circulation, et on aimerait bien qu'elle soit pas trop restreinte et que les gens soient pas obligés de se taper des cartes de séjour et tout ça. Enfin voilà, c'était juste pour vous raconter tout ça.
Très bien, nous allons poursuivre donc en parlant un petit peu de sexisme avec une réaction vraiment très intéressante du côté de l'Andalousie avec pas mal de manifestations mardi, donc on remonte deux jours en arrière, on était le 15 janvier avec comme slogan principal pas un pas en arrière, donc c'était le jour de l'investiture du nouveau président du Parlement andalou. Donc cette région de l'Espagne a basculé vraiment dans la droite, pas drôle, puisque c'est un membre du Parti Popular, Partido Popular, pour prendre le nom, mais le PP, quoi, le parti de droite conservatrice espagnole, qui s'est allié à Ciudadanos, donc les libéraux, droite libérale, et aussi à Vox, première formation politique d'extrême droite à revenir au pouvoir en Espagne depuis la mort du dictateur d'extrême droite, Franco. Donc c'était un mauvais signe. Et en fait, il y a eu des négociations. Et les négociations pour que Vox vote et suive, vote pour ce nouveau président et suive la politique, c'est qu'ils ont demandé l'abandon des programmes luttant contre les violences faites aux femmes. Donc eux, officiellement, Vox, parti d'extrême droite, ce qui est classique pour l'extrême droite, ils veulent que les hommes puissent continuer de tabasser les femmes. C'est ça dont il est question. Il y a eu une première manifestation donc mardi le matin, 3000 personnes devant le Parlement d'Andalousie. Et en soirée, toutes les communes andalouses, ou presque, se sont mobilisées avec donc pas mal de collectifs féministes. Hein, il y en a au moins 140 qui ont appelé à manifestation. Et ça a donné une mobilisation ultra impressionnante et ultra rassurante. Au moins 10 000 personnes à Grenade, à Cadix, à peu près 3 000, des milliers à Cordoue, enfin dans à peu près partout, même à Barcelone. Vous allez me dire, c'est pas en Andalousie, non. Mais il y a eu une manifestation rassemblant 3 000 manifestants et manifestants donc en soutien à ce qui est en train de se passer en Andalousie. Donc voilà, quelque chose qui nous rappelle que justement les luttes pour le droit, pour l'égalité homme-femme, c'est pas gagné et ça peut régresser à tout moment. Et là, l'Espagne, pour le coup, c'est un recul qui était inattendu. Personne n'avait vu venir ce parti d'extrême droite. Et voilà, les premières mesures qu'ils veulent faire prendre, c'est contre le droit des femmes. Et toujours dans les régressions possibles, on va aller en Caroline du Sud, donc aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à maintenant, il y a une loi qui autorise l'avortement encore en Caroline du Sud. C'est pas toujours courant aux États-Unis d'Amérique. Et là, il y a un recul important qui est en train d'arriver, puisque c'est le parti. C'est pareil, c'est j'allais dire le Parlement. Au niveau de l'État, que ça a été voté, qui devrait rendre l'avortement illégal dès que le cœur du fœtus s'entend. Donc, ça va obliger les femmes à faire une échographie, pour entendre si le fœtus a un cœur qui bat. Dans la formation du fœtus, il faut 7 à 8 semaines de grossesse. Ça veut dire qu'à partir, grosso modo, de 7 ou 8 semaines de grossesse, aucune femme ne pourrait avorter dans cet état du sud des États-Unis, ce qui est bien plus tôt que la législation actuelle. Donc, ce qui a été voté avec ce contrôle du battement de cœur du fœtus, c'est un gros recul. Si les médecins ne respectent pas, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison et 10 000 dollars d'amende, sauf dans les cas de risque pour la santé de la femme. Donc c'est un gros recul pour le droit des femmes de disposer de leur corps. C'est en cours donc en Caroline du Sud. C'est pas encore validé puisque la loi est en suspens devant le comité judiciaire. Mais si ça passe, voilà, ce sera un recul relativement important pour les femmes de cet état de Caroline du Sud. Et puis on va revenir en France avec cette étude qui est à la fois surprenante et pas tant que ça, donc du HCE, du Haut Conseil pour l'égalité, un truc créé en décembre 2017 par le gouvernement actuel, sur un des rares points sur lequel le gouvernement a un discours à peu près progressiste, c'est-à-dire sur l'idée de faire avancer l'égalité homme-femme. Et donc la création de ce Haut Conseil, qui est un truc indépendant, une des multiples instances indépendantes en France, mais pour le coup, elle est utile. Donc, ils ont fait un rapport sur le sexisme dans l'humour. Donc, ils sont partis des contenus humoristiques les plus populaires. Ils n'ont pas cherché les trucs pas connus. Donc, ils ont écouté les chroniques matinales de France Inter, de RTL Matin, d'Europe 1, les vidéos YouTube de deux artistes qui, a priori, sont célèbres, Cyprien et Normand. Et puis, un des sites internet les plus regardés sur Google au niveau du rire, qui s'appelle blague.info, que je ne connaissais pas. Je ne suis pas un fan de blague non plus. Donc, ce qui ressort de tout ça, notamment dans les matinales radio, 71% des chroniques mobilisent des ressorts sexistes. Donc c'est 71%, c'est quand même beaucoup, hein, c'est pas mal. Donc grosso modo, on qualifie généralement les femmes d'hystériques, de sottes, de sensibles, de fragiles, d'émotives, enfin voilà, des trucs liés à une différenciation sexuelle qui n'a pas forcément, enfin qui n'a pas du tout lieu d'être. Donc là, c'est sur certaines chaînes de radio, Europe 1, c'est 100% des chroniques sont sexistes, c'est pas mal. 80% sur RTL, France Inter c'était 2 sur le, c'est, alors ils ont pas tout écouté, mais 2 sur les, c'est, sur, en fait ils ont fait novembre et décembre 2017, hein, l'étude. France Inter s'en sort mieux, c'est 2 chroniques sur 8 qui ont des contenus sexistes. Alors le sexisme des fois il s'affiche de brut de décoffrage, hein, mais des fois il est plus fin que ça, c'est-à-dire que les femmes on les appelle par leur prénom, alors que pour les hommes on dit le nom et le prénom. Ce qui est courant avec Brigitte pour Brigitte Macron, avec Carlita à l'époque pour Carla Bruni Sarkozy, alors que voilà, quand on parle de Sarkozy, on dit alors bon, Sarkozy c'est un mauvais exemple parce que souvent il est caricaturé sous la forme de Sarko, mais voilà, François Hollande c'est François Hollande, enfin voilà, les hommes on utilise beaucoup plus le nom et le prénom plutôt que simplement le prénom. Preuve voilà de différence de traitement au niveau de l'humour pour les hommes et les femmes. Ensuite, c'est souvent des hommes qui imitent, et quand il y a des imitations, alors là elles sont ultra sexistes, les femmes ont toujours une voix suraiguë ou fluette. Or quand vous écoutez les femmes, elles ont, même si le timbre global est un peu plus aigu, c'est jamais aigu tel que c'est montré dans les caricatures et dans les dans les imitations qu'en font ces personnages, qui sont donc les imitateurs souvent des hommes. Du coup, c'est un réel décalage. Et puis, les qualificatifs sur le physique reviennent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Angela Merkel, qui est qualifiée de baleine rose dans une chronique de RTL. Voilà, des choses comme ça. Alors même si on a... François Hollande, par exemple, avait été attaqué un petit peu sur son physique. Grosso modo, ce que nous dit cette étude, c'est que les femmes le sont beaucoup, beaucoup plus. Alors, c'est encore pire pour certains trucs. Alors, pour les fameux Cyprien et Normand, là, c'est 83% des vidéos sur leur chaîne YouTube ont des ressorts sexistes. Donc là, ça va très très loin. Je vous parle même pas du site de blagues, là, où c'est le sexisme est un genre dominant. Alors, bien évidemment, ça enlève pas le droit de se moquer d'une femme. Et l'humour utilise une accentuation des faits. Mais donc, il pourrait y avoir du sexisme, comme il pourrait y avoir des propos aussi sur on se moque d'un homme et on va très loin et ça, voilà. Le problème dans tout ça, c'est l'inégalité. Hein, c'est ce qui nous montre, parce qu'effectivement se moquer de Brigitte Macron, ben ils ont le droit, mais on se moque beaucoup plus de Brigitte Macron que d'un homme. Elles reviennent plus souvent. Donc il y a une vraie différence de traitement entre les hommes et les femmes dans l'humour, et c'est juste une preuve supplémentaire du sexisme général latent qu'il y a dans la société.
Ouais, juste, je peux en profiter pour dire que, alors j'ai pas les papiers sous les yeux, donc je vais tenter de refaire tout ça de tête. C'est BFM TV qui a ressorti les salaires, en tout cas les revenus, puisque ce sont deux entrepreneurs, de Cyprien et Normand, hein, sur leur activité de YouTube, et puisque ça peut englober avec sur représenter des marques et tout ça. Ce qui est noté, c'est que effectivement, ils ont un beau chiffre d'affaires, hein, puisqu'ils sont à peu près. Parce que je suis en train de rechercher les chiffres pendant que je vous parle. Ils ont commencé il y a quelques années autour de 200 000, 300 000 euros sur le chiffre d'affaires. Et puis aujourd'hui, ou à quelques années près, ils sont à entre 6 000, 7 000 et 8 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, et ce qui est noté dans cet article, moi ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est surtout que c'est un secteur où il y a une très très belle marge, puisqu'on parle de marge de 60-70% de marge. C'est-à-dire qu'ils font de gros bénéfices. C'est-à-dire que c'est une activité... Quand on fait 60% de marge, c'est que c'est quand même, c'est la cagnotte. Et donc, c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie en faisant leurs petites vidéos. Et donc, petites vidéos sexistes. Voilà. C'était juste pour ajouter ça à ce que tu racontais. Nous allons parler de Mac Jésus, si tu veux bien.
Ah, c'est encore à moi. Excuse-moi, puis... j'étais parti sur autre chose. Ah oui, alors, ni Dieu ni maître. Une petite chronique très courte, ni Dieu ni maître, qui m'a beaucoup fait rire, comme quoi les croyants sont quand même un petit peu bêtes. Puisque c'est le musée d'art contemporain de Haïfa, ville israélienne, qui est un musée d'art contemporain, qui propose une exposition autour de la consommation et de la déification un petit peu du produit de consommation, donc une expo artistique et critique un peu sur la société de consommation. Et il y a un artiste intéressant que je trouve, qui est Jani Lenonen, qui est un Finlandais, qui est invité et qui a exposé une fameuse, comme tu l'as appelé, le Mac Jésus, c'est le nom de cette œuvre d'art, où on a une croix et sur laquelle il y a un crucifié, et c'est le Ronald le clown de McDonald's. Le Ronald le clown de McDonald's existe dans moult œuvres d'art où il est caricaturé, c'est pas la première fois, mais c'est très bien fait. Et ça cloue un peu au pilori, puisque c'est ça l'idée, clouer au pilori cette surconsommation, cette malbouffe, etc. Et ça a pas plu, ça a fait réagir, les chrétiens se sont plaints, les chrétiens palestiniens, ou israéliens, les chrétiens de la région en tout cas, ça a fait réagir donc le ministre de la Culture, qui a écrit au directeur du musée de Haïfa, en lui demandant le retrait de l'œuvre polémique. Cette ministre de la Culture a indiqué dans son courrier qu'elle avait reçu de nombreuses plaintes pour, je cite, et c'est un truc de se plier à ça, c'est juste la honte, une atteinte grave au sentiment de la communauté chrétienne. Elle a précisé ensuite que le mépris des symboles sacrés pour les religions et de nombreux croyants du monde entier en tant qu'acte de protestation artistique est illégitime. Donc en gros, on ne peut pas utiliser la religion, une image religieuse détournée, pour elle c'est pas possible. Alors, on est dans un état quasi religieux, c'est pas non plus aberrant d'entendre ça de la part de Miri Regev, qui est le nom de cette ministre de la Culture israélienne. La direction du musée avait dans un premier temps décidé du maintien de l'œuvre, mais elle avait placé des panneaux d'avertissement en disant attention, ça peut choquer si vous êtes chrétien. Face à la polémique, finalement, l'artiste a demandé à ce que son œuvre soit retirée, et en fait, de toute façon, c'était prévu que d'ici fin janvier, l'œuvre soit enlevée, donc l'œuvre va être enlevée. Ce qui est inadmissible dans cette histoire, en dehors du fait que des religieux censurent une œuvre d'art, ce qui est assez classique, finalement, on a l'habitude maintenant, c'est qu'en fait, le fait de crucifier personne n'a aucun lien avec le catholicisme, le christianisme. Le crucifiement, c'est le nom exact, existe depuis très longtemps et a concerné des milliers de personnes, pas simplement un ou deux chrétiens ou des centaines de chrétiens. Je ne sais pas combien de chrétiens ont été crucifiés, notamment par les Romains, ce qui était le cas du personnage qu'ils appellent Jésus. Et en fait, faire croire que crucifier le Ronald, le clown, c'est forcément une offense à leur gourou qui s'est fait crucifier soi-disant par les Romains, c'est oublier tous les autres crucifiés, puisque on rappelle, quand il y a eu la révolte de Spartacus, 6000 partisans de cet esclave qui s'est battu contre l'esclavage, 6000 ont été crucifiés sur la Via Appia, là, entre Rome et Capoue. Vous imaginez? C'est pas un truc réservé aux chrétiens, on voit pas pourquoi les chrétiens se réapproprieraient cet acte de torture et de mise à mort qui a été utilisé par les Romains, mais par bien d'autres justices sanguinaires avant les Romains. Donc voilà, moi je trouve ça scandaleux, cette réécriture de l'histoire. Non, le crucifiement n'est pas un acte, n'est pas que quelque chose qui concerne les chrétiens. Et puis, finalement, c'est toujours la religion qui censure une œuvre d'art. C'est un petit peu pénible aussi.
Alors, on va continuer avec du Mac quelque chose. On va parler du Big Mac, puisque McDonald's a perdu l'exclusivité du nom sur son célèbre sandwich.
Ça veut dire que moi, si j'ouvre un truc à burger, je peux appeler mon burger Big Mac.
Oui.
J'avais pas envie de le faire. Mais...
Alors, c'est l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle qui a pris cette décision la semaine dernière. Nous étions le 11 janvier, si je ne me gourre pas. C'est une affaire en fait qui traînait depuis un petit bout de temps et c'est une guéguerre, hein, il faut le dire, entre des entreprises. Alors entre évidemment la multinationale McDonald's et une entreprise irlandaise qui s'appelle Supermax. Alors Supermax ouvre son premier fast-food, restaurant à sandwich en 1978. Et puis ça devient une chaîne, ça se développe très très bien. Et puis son patron dans les années 2010, monsieur Pat McDonagh, c'est à l'irlandaise, hein, c'est pas McDonald's, il faut pas se tromper, hein, c'est un Pat et puis un Mac et un Donagh, décide de devenir aussi une multinationale et donc d'essaimer ses petits restaurants en Europe. Et McDonald's
le vit pas bien
et décide que Supermax c'est trop proche de Big Mac et donc se lance dans une guéguerre qui fait que Supermax ne peut pas ouvrir d'autres restaurants dans l'Union européenne, puisque c'est une décision qui est portée par les droits donc sur les marques en Europe. Et tout ça gêne beaucoup cette entreprise. Et le patron s'agace et décide de rétoquer McDonald's et donc s'adresse à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en disant mais attendez, moi je suis. C'est le nom. Alors, il y a eu plusieurs astuces qui ont été utilisées pour s'attaquer à la multinationale. Une des astuces a été dire. Mais la marque, elle concerne le sandwich et pas le restaurant. Et en fait, ça fait tant d'années que, alors, qu'il y a eu un dépôt. Parce qu'il y a, alors, je ne vous ai pas dit, mais McDonald's, la multinationale, a déposé en Europe, enfin, en tout cas dans l'Union européenne, le nom Big Mac en 1996. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y en a plein qui ont eu des problèmes, parce que ce n'est pas les seuls. Mais c'est dit, attendez, depuis quand même un certain nombre d'années, en fait, on n'a pas d'utilisation de cette marque Big Mac pour la restauration, pour le nom du magasin. Et donc, c'est une marque qui n'est plus utilisée. Et comme ça faisait un moment qu'il y avait une guéguerre, entre-temps, McDonald's avait redéposé en 2017 une autre licence pour l'utilisation de cette marque Big Mac afin de protéger non seulement le sandwich, mais l'appellation d'une manière plus générale. Puisque Supermax disait, mais attendez, puisque Big Mac est le nom que d'un sandwich et pas d'un restaurant, et que la marque Big Mac n'est pas utilisée pour un restaurant, mais que pour le sandwich, moi je devrais pouvoir utiliser Supermax qui ressemble, parce que c'est sur ça où Supermax s'était fait rétoquer, c'était que en fait ça ressemblait soi-disant, et que donc ça gênait le Big Mac, mais simplement entre le sandwich et le restaurant, bah, y avait des différences, et puis qu'en plus, bon moi à l'oreille hein, j'entends bien deux mots différents, mais ça après vous savez c'est la guéguerre des marques et des licences, donc c'est très compliqué, toujours est-il que du coup, bah, là McDonald's ne communique pas trop, ils ont deux mois, hein, la multinationale, pour déposer un recours devant le tribunal de l'Union européenne pour dire ben nous on veut récupérer notre marque à nous. Mais pour l'instant c'est quand même Supermax, les fast-food irlandais qui ont gagné. Et ça veut dire que toi effectivement demain tu peux utiliser dans ton restaurant de quartier cette appellation Big Mac pour vendre des sandwichs, puis d'ailleurs tu pourras bien y mettre ce que tu veux dedans. Alors c'est un peu intéressant parce que ça montre quand même comment aujourd'hui une multinationale, enfin pas qu'aujourd'hui hein, d'ailleurs depuis plusieurs décennies, elle cherche à protéger des marques, ces marques, même quand ça sonne un peu lointain hein, dans d'autres appellations. Mais voilà, c'est pour essayer d'avoir des monopoles de noms, de familiarité avec des produits, des lieux, en faisant des amalgames. Et puis quand vous allez un petit peu sur même hein, la protection des marques et des licences, c'est un peu la fois avec les gilets jaunes par exemple, c'est intéressant comme on voit aujourd'hui comment il y a des licences très variées, puis il y a le droit anglo-saxon, il y a le droit européen, il y a le droit français, et par exemple sur gilets jaunes, moi j'étais allée voir, et vous aviez tout un tas de gens qui avaient déposé gilets jaunes, mais vous aviez gilets jaunes machin, les gilets jaunes, le mouvement gilets jaunes, les gilets jaunes en colère, et tout ça était déposé par des gens différents avec des marques différentes. Alors ça ne veut pas dire que derrière tout est validé, mais il y a quand même des gens qui font ces demandes pour que ça soit déposé et que ça leur appartienne. Et c'était très marrant parce que ça ne cessait d'arriver hein, en France sur la protection des marques. Sur ces appellations, et ben c'est un petit peu le jeu aussi de ces multinationales qui cherchent à conserver des appellations, même quand elles sont un peu loin, avec d'autres dénominations, comme là c'était le cas avec Supermax. Mais voilà, c'était un peu de gêner finalement une concurrence, c'était plutôt ça, et d'éviter que Supermax puisse s'implanter et donc faire une concurrence de quartier avec le McDo du coin.
Très bien, nous allons poursuivre avec des informations autour de l'énergie et de l'environnement. Ma première info concerne l'additif E171, puisque la pression des associations et de certains parlementaires aura fini par faire plier l'horrible ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui lui était fondamentalement très amoureux de cet additif E71, qui voulait pas le suspendre et qui finalement a changé d'avis. Donc cet additif, hein, c'est du dioxyde de titane, notamment sous forme nanométrique, et qu'on retrouve notamment dans beaucoup de sucreries pour enfants, parce que ça sert à rendre le produit plus blanc et plus brillant. C'est un truc utile juste pour faire joli.
Alors on en trouve dans les glaces aussi.
Oui, enfin dans tout ce qui
dans
a besoin d'être brille, blanc et brillant. Quoi, voilà.
Enfin, on trouve dans plein de choses. Hein,
mais dans les essais qui ont été faits scientifiquement, hein, on retrouve beaucoup plus de présence du E171 dans le corps des enfants que dans le corps des parents à cause des friandises et notamment peut-être aussi des gâteaux pour enfants qui brillent plus dans la nuit que ceux pour les adultes.
Puis il y a les fameux chewing-gums.
Voilà, enfin toutes ces choses-là horribles. N'achetez aucun produit avec du E171, c'est le conseil qu'on peut vous donner, et que donne d'ailleurs une grande majorité de scientifiques. Donc, il faut savoir que ces nanoparticules qu'on retrouve dans ces bonbons ont la particularité d'être petites, parce que c'est d'où c'est nano, hein, de l'ordre du nanomètre, 100 à 130 nanomètres, très exactement. Ça passe la barrière des intestins, ça passe la barrière du cerveau, ça passe la barrière du rein, enfin ça traverse tout. Ça rentre de partout dans l'organisme et ça s'accumule avec des conséquences qu'on mesure pas toujours, même si on a déjà pas mal d'effets qui ont été constatés, effets mutagènes, effets cytotoxiques, donc toxiques pour les cellules, ça les tue, effets cancérigènes, voire même neurotoxiques. Donc il y a vraiment non seulement des suspicions, mais des débuts de preuves sur ces nanoparticules, notamment celles de E71, cet additif de dioxyde de titane. Alors, ce qui s'était passé, enfin, on vous rappelle quand même que la loi d'interdiction du dioxyde de titane, enfin, de l'additif E171 a été votée. Mais c'est à Bruno Le Maire de faire voter, de passer au décret d'application. Et c'est là où il avait dit non, mais on va attendre 3-4 mois parce que je veux la réponse du communiqué de l'ANSES qui a une étude à rendre, je crois, en avril pas que sur le dioxyde de titane, sur un ensemble de nanoparticules sur lequel il y a des suspicions. Et ben voilà, il y a eu pas mal de pression, il y a eu des articles dans la presse, et du coup il a reculé, et normalement il va accélérer la procédure d'interdiction de ce E171. Ça nous rassure. Ce qui est triste, c'est que il y aura aucune condamnation des entreprises qui ont utilisé ça jusqu'à maintenant, parce que elles vont dire c'était légal. Et si on se rend compte que c'est dangereux, on s'en fout, elles ont le droit de vendre des produits pourris. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'était quand même, c'est pour montrer que des fois, la pression sur les ministres qui sont, ou les élus qui défendent des produits toxiques marche, fonctionne. En tout cas, là, ça a fonctionné. On va revenir sur les pesticides avec le Parlement européen qui a adopté des recommandations de la Commission pesticides. Et c'est plutôt positif, il faut que ça passe après dans le droit, etc. Mais cette commission pesticides qui s'était réunie suite à la pagaille liée à la réautorisation du glyphosate, vous savez le principe de l'herbicide phare de la marque Monsanto, Bayer aujourd'hui. Donc ça avait qu'à fouiller, ça avait été un peu compliqué. Donc cette commission avait été créée et a donné donc un rapport au Parlement. Ce rapport a dit qu'il fallait absolument revoir, examiner la procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union européenne. Je ne vais pas tout détailler, mais il y a pas mal de choses, notamment pas mal en disant attention, il n'y a pas de transparence sur les gens qui interviennent pour prendre des décisions officielles. Il y a aussi un manque de moyens financiers pour les personnes qui, les agences qui évaluent. Du coup, elles sont pas indépendantes. Elles prennent des chercheurs qui travaillent aussi pour l'industrie. Enfin, il y a plein de recommandations. Et c'est plus, et ça va plutôt dans le bon, ça va même quasiment dans le bon sens. Et là aussi, c'est suite aux pressions des ONG, hein, qui avaient tout fait pour et participer. Elles ont été interrogées par cette commission. Donc voilà, on a une chose qui va dans le bon sens. La transparence devrait pouvoir apparaître tout doucement. Ce sera à peine transparent, mais plus transparent. Et donc, on a espoir que pour les prochaines autorisations ou interdictions de pesticides, la procédure soit un peu plus réglo. Et en même temps, il y a en ce moment Envoyé Spécial qui doit préparer une émission, ou qui l'a peut-être déjà diffusée d'ailleurs, je ne me rends pas compte. L'émission d'Élise Lucet autour des pesticides. Et ils ont fait ce que pas mal de gens ont fait déjà. Ils ont demandé à des gens un peu célèbres de donner leur corps pour qu'on recherche la trace de pesticides. Donc là, ils ont fait à travers les urines. Et donc, il y a des résultats. Ils ont fait des gens très célèbres. Il y a Jamel Debbouze, notamment, qui dit « Oh bah mince, j'ai plus de glyphosate que Lilian Thuram. » Il n'était pas content d'en avoir plus que Lilian Thuram. Lilian Thuram, qui, lui, a répondu en disant « Bah moi, je suis encore plus surpris. Je pensais pas en avoir du tout parce que je fais super attention à ce que je mange. » Comme quoi, la contamination, elle est généralisée et c'est très compliqué d'y échapper. Il a dit, d'ailleurs, Lilian Thuram, « Bah du coup, j'étais vraiment naïf. » Et dans les personnalités testées, le record, c'est Julie Gaillet. Elle a le triste record. Elle a dit, ouais, bon, je pense que ces derniers temps, j'ai mangé un peu n'importe comment, et du coup, ça se voit dans ses urines, elle a plein de glyphosate. Voilà. Et d'autres pesticides, il n'y a pas que le glyphosate qui est testé. Ça rappelle un peu ce qu'avaient fait les journalistes de Charlie Hebdo il y a quelques mois pour lancer la campagne Nous voulons des coquelicots, donc qui est une campagne importante pour l'interdiction des pesticides, des herbicides toxiques, c'est-à-dire tous. Et où ils avaient, eux, testé leurs cheveux. Alors, le cheveu, c'est encore pire. Enfin, là, quand on teste l'urine, c'est à court terme. C'est ce qu'on a mangé les jours précédents. Les cheveux, il y a du stockage et on peut voir à long terme l'impact de traces de pesticides dans les êtres humains. Puis il y a deux, trois ans, il y avait aussi d'autres personnalités politiques, notamment José Bové, Nicolas Hulot, qui s'était fait tester et avec des résultats catastrophiques. C'était au niveau de l'Europe, là, cette fois-ci. Donc voilà. Cette émission sera sûrement intéressante. On y verra à nouveau l'impact négatif des pesticides. Mais bon, plus on en fait, on a l'impression moins ça avance. Mais bon, on espère qu'un jour ça avancera vraiment et qu'on interdira tous ces produits toxiques.
Alors, moi, je voudrais juste te dire quand même que dans ce grand débat national...
Ah, tu participes au grand débat national ?
Ah bah, moi, je veux en tout cas parler des 80 km/h.
Ah oui, c'est le seul truc
ça,
important.
C'est le sujet central quand même de toute cette démarche. Non, mais je voudrais juste te dire que quand même, là, on a un gouvernement qui se bouge, qui réagit face au mouvement des Gilets jaunes et qui nous propose un truc important.
Non, mais il a quand
la
même...
vitesse.
C'est pas con parce qu'il a quand même compris que les Gilets jaunes étaient essentiellement des bagnolophiles, on va dire. Donc des addicts à l'automobile et que au départ il y a eu pas mal de revendications autour de la bagnole. Lui, il se dit, je vais lâcher le 80 km/h, je m'en fous des morts sur la route, je lâche ça, ça fera plaisir aux bagnolophiles et peut-être ça calmera quelques-uns de ces sinistres personnages habillés en jaune qui lui font peur, hein. Ils lui font très très peur.
Ah ouais, bah, je crois qu'il a eu très très peur, hein. Il nous fait tellement, il a tellement peur qu'il fait un grand débat national, hein.
Ouais.
Enfin bon,
bref,
donc c'est la dernière fois, je me demande.
Je promets d'essayer de rouler plus vite que 80 km/h, mais pour l'instant je crois que mon record ça doit être 25 km/h, hein.
Moi avec mes baskets, écoute, c'est toujours un peu compliqué. Donc alors donc on a ce grand débat avec donc ces 80 km/h, et la dernière fois je me demandais quand même, ils font quoi les autres ministres qu'on n'entend pas, parce qu'avec le mouvement des Gilets jaunes ça prend tellement l'actualité, c'est normal, hein, entendons-nous bien, que du coup on sait pas bien ce que font les ministres, les autres.
Bah, il déprime.
Pas concerné. Alors, eh ben, il y en a un, du coup, il a voulu faire parler de lui.
Il aurait mieux pas dû. Il a été très bon.
Oui, c'est monsieur Didier Guillaume. Alors, je pense que vous aviez même oublié comment il s'appelait, notre ministre de l'Agriculture.
Je savais même pas qui c'était.
Parce qu'en fait, il est là depuis le 16 octobre dernier.
Quand il y a eu le remaniement.
Et voilà. Et qu'en fait, on s'est même pas rendu compte qu'il était arrivé.
Voilà. Et qu'il est encore là, du coup.
Et qu'il est resté. Et alors, du coup, il s'est dit, je vais faire parler de moi. Excusez-moi pour les du coup qui s'enchaînent dans ma bouche, c'est très moche. En tout cas, on a ce monsieur qui donc arrive en octobre, juste derrière commence le mouvement des Gilets jaunes, pof, on n'a même pas le temps de parler de lui. Alors, juste pour vous rappeler, c'est un monsieur, il a 59 ans, un truc comme ça, c'est un ancien socialiste, il est sénateur de la Drôme. Voilà, je pose un petit peu hein, les trucs, histoire de vous expliquer d'où il vient, hein, ce monsieur. Et il est donc ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et pour vous rappeler un petit peu les choses, pour mieux comprendre sa dernière sortie, c'est que quand il était arrivé le 16 octobre, le 19 octobre précisément, il a fait une sortie où il parlait des pesticides. On lui demandait quelles étaient les conséquences sanitaires des pesticides. Et lui, il avait répondu, bah, il faut demander aux scientifiques des preuves avant d'envisager leur retrait. Alors, je voulais vous rappeler un petit peu qu'il avait sorti voilà, ça quand même.
On rappelle que les preuves s'accumulent un petit peu.
Alors, voilà. Il a aussi dit que moi, ministre de l'Agriculture, les lobbies ne pourront pas franchir la porte de mon ministère. Bon, a priori pour lui, les syndicats, par exemple du port, ou ce genre de groupement, ne sont pas des lobbies.
Et du coup,
pourtant, il les a reçus.
Ouais. Et les producteurs de pesticides non plus.
Voilà. En tout cas, peut-être que par lobby, il entendait L124 ou des gens comme ça.
Ah oui, ses ennemis, oui.
Voilà, alors
De l'agriculture à animal.
Et puis, les antispécistes, les véganes, parce qu'il faut aussi se souvenir, mais c'était juste, en fait, il a fait parler de lui beaucoup quand il est arrivé, puisque tout de suite, c'était le 22 ou le 21 octobre, dans les grands débats sur la loi alimentation, il avait dit que lui, il était contre le repas végétarien imposé.
C'était un projet un jour, c'était un truc.
Il est dit dans la restauration collective, les gens, je le cite, hein, dans la restauration collective, les gens doivent manger ce qu'ils veulent. Moi, je suis opposé au repas de substitution. Je suis opposé à une journée de repas végétarien. Ouais, c'est clair, hein, voilà. Et donc, quand il nous annonce que le vin n'est pas de l'alcool, enfin, pas comme les autres. Pardon, je caricature ce qu'il a dit.
C'est un discours assez classique
sur le vin.
Des ministres de l'Agriculture française qui défendent toujours la filière viticole.
Il dit oui, le vin c'est de l'alcool, mais c'est pas pareil que les autres boissons alcoolisées.
Non mais il était énorme sur la boîte là. Est-ce qu'on voit des jeunes en boîte sortir en ayant bu du Côte-du-Rhône quoi ?
Alors attends, je vais te lire précisément parce que j'ai récupéré la petite phrase. Alors, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Ça c'est ce qu'il a dit. Il dit quand même, l'addiction à l'alcool est dramatique et notamment dans la jeunesse avec le phénomène du binge drinking. On a l'impression que les un peu vieux, un peu plus que toi tu vois, ils ont appris le mot binge drinking, c'est-à-dire qu'avant, les vieux qui se bourraient au blanc dès 10h le matin au bistrot du coin, c'était pas du binge drinking, pourtant le principe est le même, hein, quand même. Puisqu'à midi, ils sortaient, ils étaient torchés quand même. Il faut remettre un peu les générations dans leur place. Donc effectivement, il y a un phénomène de se saouler très très vite chez les jeunes. Hein, le but c'est de.
Chez les jeunes, quand j'étais jeune, c'était pareil.
Mais voilà, mais bon, il y a un phénomène. On sait que les médecins aujourd'hui, sur les addictions, disent qu'ils ont aux urgences, on en voit un peu plus qu'avant. Alors il a dit, mais je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Croz-Hermitage, du Bordeaux, jamais. Ils boivent des mélanges de l'alcool fort.
Et ça a toujours été. La culture du vin, elle arrive plus tard. Les jeunes ont toujours un peu bu et de la bière de l'alcool fort. Et la culture du vin, elle s'implante, elle est plutôt.
C'est parce que tu es un urbain, mais parce que ailleurs, ça ne se passe pas exactement comme ça et ça dépend les régions.
T'es saoulé au blanc-pomme quand tu étais jeune?
Ouais.
Non mais c'est ça voilà. Aussi. Oui.
Non mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que effectivement, si Monsieur on l'a peut-être pas quand on est jeune un dictionnaire du bon cru de l'année pour se bourrer la gueule avec, n'est-ce pas ? Mais ça me fait marrer que des vieux, pardon, hein, parce que c'est pas d'être vieux d'avoir 59 ans, d'avoir 60 balais, ou même d'en avoir 65.
Non, mais
c'est juste que ce monsieur parle comme un vieux schnock.
Il parle des jeunes et il connaît pas bien où il est. Déjà, on n'a pas l'impression qu'il ait été jeune un jour. Parce que normalement on y passe tous, mais en plus effectivement il parle comme un vieux schnock qui comprend pas ce qui se passe.
Et car effectivement on a aujourd'hui des gens qui boivent de la vodka, du rhum ou du whisky.
T'imagines, tu vas acheter un Croz-Hermitage à 70€ quand t'as 19 ans pour te brûler la gueule.
Il y a un moment effectivement que c'est même pas une question de thune, parce que
ça allait quand même.
En boîte de nuit, excuse-moi, mais je pense que l'alcool fort coûte très très cher. Donc c'est plus que en fait ce monsieur il n'est pas de la même classe. Peut-être que les jeunes. Je vois un petit peu de ça quand même aussi. Il est très très marrant en tant qu'ancien socialiste. Ça me fait C'est marrant, hein. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il est ministre de la culture, de l'agriculture. Mais vous voyez, comme là, je vous ai fait un petit rappel aujourd'hui. On comprend mieux sa position sur le soutien au milieu viticole, hein, puisque le vin, on en revient encore à ce discours que d'autres avant ont eu. C'est-à-dire que c'est différent en France. On a une tradition, c'est de la culture.
Alors que je suis désolé pour lui, mais le pastis, le 51, le berger j'ai donné plein de marques exprès.
Et c'est très mal, merci.
J'en ai donné
plein. Ça me plaît pas trop.
Les anisés, c'est aussi de la culture. Tous les cognacs, c'est de la culture. En fait, tous les alcools sont de la culture quelque part. Pas moins, pas plus.
C'est intéressant quand même d'avoir encore une fois des ministres qui viennent en soutien à une économie et une industrie. Mais en même temps, vu les autres bêtises qu'il avait sorties jusqu'à présent, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'ils l'ont envoyé, Didier, à la manœuvre pour nous occuper pendant le mouvement des Gilets jaunes et d'avoir un truc à raconter? C'est aussi tout à fait possible, hein.
Ouais.
Mais en tout cas, il doit vraiment s'embêter. Je pense qu'il tourne en rond dans son bureau, qu'il a reçu 2-3 lobbyistes du vin, peut-être. Je dis peut-être. Peut-être qu'il était au bistrot parce qu'il s'ennuie, qu'il n'a pas de dossier sous la main.
Ouais,
et peut-être qu'il s'est dit, je pourrais faire une sortie sur le vin et dire que c'est quand même pas un alcool comme les autres. Parce que bon, voilà.
C'est le seul truc, c'est que c'est pas original, parce que beaucoup de ministres de l'agriculture française l'ont déjà fait par le passé.
Et pas que. Donc ça a évidemment fait bondir les spécialistes de l'addiction, hein, qui ont rappelé que picoler du vin ou picoler du rhum, ça revient au même quand t'es dépendant et que t'es alcoolique. Point final.
Ouais.
Que l'alcool, quand on consomme régulièrement et tout le temps, c'est mauvais pour ta santé. Point final. Problème cardiovasculaire, cancer. Donc, il faut arrêter. Et les études montrent que les consommateurs et consommatrices de vin sont des consommateurs réguliers de vin.
Voilà. Et voilà, déjà. Et même à faible dose, hein, l'alcool n'est pas bon à la santé. Après, c'est un choix personnel qu'il faut assumer, mais qui ne relève pas, de ce que dit un ministre.
Voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir Didier sombrer, quand même, dans la bêtise une nouvelle fois.
Et je me demande, il a peut-être bu?
Je crois pas, en fait. Ça avait pas l'air de s'entendre. En tout cas, après, il y a des très bons alcooliques qui sont vraiment. Qui n'ont l'air de rien. Donc, j'attends la prochaine sortie ministérielle du prochain ministre ou de la prochaine ministre qui aura une super bonne idée à nous raconter comme ça. Voilà. Parce qu'ils ont l'air de, quand même, les autres, de tous pas mal s'embêter, quoi.
Voilà, il nous reste 2 petites minutes. Tu as un agenda?
Oui, très vite. Demain soir,
nous serons. 2 minutes, t'as le temps.
Vendredi. Oui, moi, je cours. À la salle des Ovalistes, c'est 6 impasse Flessel sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est pas très loin de la salle Paul Garcin, si vous ne savez pas du tout où est la salle des Ovalistes. C'est une petite salle en hauteur, hein. Il faut monter les escaliers dans un petit bâtiment. Il y a une soirée de soutien à Kélé, un jeune Guinéen qui, comme d'autres, a subi les problématiques d'expulsion. Hein, la préfecture s'acharne pour le mettre dehors parce que... C'est mal, un jeune Guinéen qui voudrait rester chez nous. Donc il y a une soirée solidaire, festive, de soutien à Kélé. Mais c'est aussi l'idée de soutenir tous les jeunes. Les moins jeunes. Mais aussi, voilà, en particulier aussi les mineurs qui sont ici en France et que la préfecture traite vraiment extrêmement mal et que personne ne veut accueillir. Donc c'est l'idée de se réunir, de faire la fête et en même temps d'être solidaire et de montrer aussi qu'il y a des gens qui continuent à être unis pour soutenir ces jeunes mineurs qui sont menacés d'expulsion. Donc c'est demain à partir de 19h à la salle des Ovalistes. Et puis je voulais juste dire que Océdrat, qui est un lieu que nous aimons beaucoup, qui est à Croix-Paquet, toujours sur les pentes de la Croix-Rousse, mais de l'autre côté et en bas, c'est le samedi 26 janvier, c'est pas tout de suite, à 19h, on pourra écouter, dans le cadre d'un apéro-concert, le groupe Terra Canto, c'est de la polyphonie paysanne d'Italie. Et voilà, ça peut être aussi sympathique. Voilà, notez tout ça dans vos agendas.
Et ben voilà, on laisse la place à l'émission suivante.
À la petite cuillère. Et on vous dit bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.